The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 275 de French Connection. Cette semaine, on est avec Steve.
Hello!
Et Jacques.
Bonjour tout le monde.
Puis Francis répare ses fenêtres.
Chose genre. Avec le mauvais temps qu'il y a, là.
Au moins, il
est ouais, c'est ça.
Avec nous.
Il a trop mouillé ou quelque chose, je pense. Hey, ce mois-ci, bon, on retourne avec nos shameless plugs, puis on a une coupe de mise à jour. Évidemment, le Discord du Hackfest, discord.hackfest.ca. La conférence RMTI du 8 septembre, où ce qu'on devrait donner un podcast, la gang là-bas. Congrès Convergence le 10 septembre, fait que c'est pas mal tout dans ces dates-là. Celle-là, c'est Micrologique à Québec. GoSec est en même temps à Montréal, le 10 et 11. Où est-ce que je serai sur le panel Red Team, Blue Team, du côté Blue Team. Tout de suite après, on a le B-Side, le 13. Où est-ce que potentiellement, puis on fera une petite note après sur ça, mais on a eu le malheureux décès de Michel Cousin récemment, pour ceux qui connaissaient, si vous n'étiez pas au courant. Fait que là, il y aura techniquement une rencontre à B-Side Montréal, c'est presque confirmé. Ouais. Et ensuite, on a le groupe Le Point pour cybersécurité et protection personnelle, des données personnelles le 25 octobre. Et évidemment, Polar et Hackfest le 16, 17 et 18. Et cette année, le keynote, c'est Chris Roberts, la personne qui a piraté les avions en plein vol, là, il y a 15 ans à peu près.
Nice!
Il est vraiment cool. Je pense qu'il est CISO justement d'une compagnie érotique aujourd'hui. Là.
Donc, compagnie érotique?
Ah, j'ai entendu.
Aéronautique,
il me manquait un autre.
Compagnie
érotique. C'est correct, ça. Ça vole différemment. Ouais, je pense que c'est. Je me souviens pas s'il l'a encore, faudrait que je recheck. Mais ouais. Il était CISO de Supersonic, quelque chose comme ça.
Ouais.
Fait que. Ça fait le tour de nos événements de l'année. Fait que beaucoup d'activités. Puis j'étais pas supposé d'aller à DEF CON, mais Black Hat, mais on va être là quelques jours avant le Black Hat, rencontrer quelques partenaires et autres. Fait que s'il y en a qui y sont et qui veulent prendre un verre ou dire salut, juste à nous contacter sur Discord. On sera là. Hey, on commence ça avec le sujet du jour, je pense, parce que celle-là est très drôle. On a déjà parlé, il me semble que c'est avec toi, genre qu'en plus, les mots de passe les plus utilisés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, évidemment. Puis on rit de ça que ça n'a pas de sens. Et là, McDonald's qui décide de choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo!
Supply chain encore.
Ah oui, c'est ça. C'est
incroyable.
Mais c'est pas juste supply chain, c'est le fait qu'avec tout. La sécurité qu'ils mettent en place, parce qu'évidemment, ils ont quand même une grosse équipe et une bonne équipe. Là. Mais toutes les checks en place, du pipeline jusqu'à formation, jusqu'à tout, ils se ramassent quand même en prod avec ça.
Oui, mais c'est pas, on s'entend, c'est pas une application de Microsoft. Là. Ils utilisent un chatbot qui s'appelle Olivia, qui a été développé par Paradox.ai sur la plateforme là, qui appelle ça MacHire. C'est pour le recrutement aux États-Unis. Pour traiter les candidatures. Donc, c'est environ 90% des franchises utilisent ça. Là, le 30 juin, il y a des chercheurs en cybersécurité qui ont découvert que l'interface d'administration acceptait les identifiants avec un username de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un password de 1, 2, 3, 4, 5, 6, permettant l'accès complet. Là. Puis, c'est pas rien que ça. Fait que là, ils ont trouvé que, premièrement, c'est utilisé depuis 2019, cette affaire-là. Fait combien de temps ça fait là, que ça traîne comme ça? Mais après ça, ils ont trouvé une vulnérabilité IDAR, hein, quelqu'un qui dort sa switch, parce que quand ils se sont logués dedans, ils ont fait semblant d'être un appliquant qui appliquait. Là, ils ont regardé dans le furteur tout le code, ils ont marqué qu'il y avait un lead underscore ID, puis il était rendu à 64 millions quelque chose. Pour la fin, ils ont juste changé de numéro, puis ben oui, il y avait accès au chat d'un autre candidat. Puis là, ils se sont aperçus qu'il y avait l'accès au chat de tous les candidats qui transmettaient des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des sortes d'informations. Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, adresses physiques, disponibilité et transcription des conversations qui étaient accessibles. Ça incluait aussi des jetons d'authentification là, parce qu'ils ils s'authentifient dans cette plateforme-là. Fait que là, ils ont signalé le problème à McDonald's et Paradox.ai, puis ils ont identifié ça en dedans d'une heure. Microsoft, évidemment, pas Microsoft, McDonald's a mis la pression sur Paradox, puis ça a été réparé rapidement. Mais ça reste quand même, c'est des choses, comme tu dis, de base, là, qu'aujourd'hui, il devrait avoir d'excuses pour ça.
Ouais, mais le mot de passe, oui, puis IDOR aussi. Là, t'sais, de dire ouais. ID égale à 1, puis je le switch pour 2, puis tu fais aucun check d'autorisation. Là.
Exact.
Puis, ce qui est plate de celle-là, c'est que c'est le bug le plus fréquent dans toute organisation depuis que je fais du pentest. Ça c'est, depuis toujours.
Je suis pas Red Team du tout, tu sais. Là. Puis, à un moment donné, je me suis pris un abonnement sur TryHackMe, j'ai commencé à étudier des choses. Puis, il y avait un module sur les IDOR, justement, les vulnérabilités. Puis là, OK, je regardais ça, je fais l'exercice dans la petite VM, je disais, OK, c'est cool ça, mais c'est ouais, je peux pas croire qu'il y a tant de sites que ça qui permettent ça. Ça a l'air que...
C'est extrêmement fréquent. Puis je comprends pas pourquoi, parce que c'est techniquement même pas de la sécurité. C'est des trucs basiques qui te montent au ouais. début de l'université ou au secondaire quand tu prends des cours de programmation. Tu calls un, est-ce que tu as accès à un? C'est opérationnel, ah. c'est pas plus que ça. Là. Mais la majorité des organisations, évidemment petites, mais les grandes, là, ils ont tout ce bug-là. Tout.
Ah, ouais, c'est
génial. Uber s'est fait pogner, je me souviens plus de l'année, là, ça doit faire 5 à 8 ans, avec un IDOR, puis ils ont eu un leak, puis ça leur a coûté une affaire comme 350 millions, cette aventure-là. Là. C'est un IDOR de base aussi. Tu as eu les iPads dans le temps que ça a fait tout voler à tous les jours. On a eu le gouvernement du Canada, il y a 10-15 ans, même chose. Tu allais sur le site de Passeport Canada, tu changeais l'URL pour la valeur, puis t'avais les données du passeport de quelqu'un d'autre. T'imagines-tu le nombre de Chinois qui sont devenus Canadiens, toi, pendant ce temps-là?
C'est triste, ou on pourrait dire, c'est comme les routes au Québec, c'est gênant, hein? C'est des choses comme ça aujourd'hui.
Oui, ça brasse. Aïe, aïe, aïe. Steve, de ton côté, Cloudflare, ouais, c'est une autre belle erreur, ça.
Ben, c'est une erreur. Beaucoup de gens ont pensé que c'était un autre détournement de route BGP là, qui aurait été introduit et qui aurait détourné le trafic, mais non. Cloudflare s'est avancé et ils ont dit non, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à l'interne qui a empêché pendant 62 minutes que le service DNS qu'on connaît et qui est mondialement réputé de 1.1.1.1 n'était plus disponible. Donc, une fois corrigé, mais c'est revenu évidemment. Sauf que ça démontre encore une fois que ça prend pas grand chose à ce que les services en ligne deviennent inopérants, puis que les gens à ce moment-là, tu sais, pendant tout ce temps-là, tu te demandes mais pourquoi j'ai pas de résolution. Non, l'internet il est down, tu sais. Fait que c'est important d'avoir plusieurs DNS. Souvent les HCP vont être à mesure d'être programmés avec jusqu'à quatre. Serveur DNS afin de si le premier marche pas, il vaut au deuxième, etc. Fait que c'est juste une précaution parce que on peut plus naviguer si on n'a plus de serveur DNS pour trouver les URL, évidemment, parce que travailler maintenant juste avec une adresse IP, c'est très rare que l'adresse IP unique va faire foi deux sites à destination, tellement qu'il y a d'intermédiaires entre les deux maintenant. Là.
C'est pour ça qu'on a tous des t-shirts qui disent It's always DNS.
Yep, something like that.
It's not DNS, should not be DNS, it was DNS. Quelque chose de genre. Hein? Ouais. Et puis un sujet intéressant, les câbles sous-marins. Il y en a eu un, je pense, qui s'est fait couper encore. Puis là, la FCC va aller empêcher la Chine de toucher à ça.
Oui, puis l'évaluation de menace qui provient justement de Recorded Future nous amène à comprendre que l'évaluation du risque et de la menace est telle que les conflits contemporains que l'on vit actuellement, ben ils font l'objet justement de que un câble sous-marin soit une cible de choix. Quand même plusieurs années, une fois qu'ils ont été déposés dans le fond de l'océan, puis il y a des initiatives privées comme Google, eux autres, je pense, font 3 fois le tour de la planète avec la quantité de fibres optiques qu'ils ont mis dans le fond de l'océan. Ben, c'est là que ça prend pas grand-chose pour déconnecter une nation ou une organisation. Tu sais, au Québec, on veut déconnecter les îles de la Madeleine. Ils ont deux fibres optiques, en supposément redondantes, du même point d'entrée et de sortie. Ça a déjà été prouvé faillible. Et pour cette raison-là, ils ont réactivé un site micro-ondes qui s'en va vers la tour en Nouvelle-Écosse, comme c'était avant. Bon. Mais quand on parle à l'international, exemple, avec le prochain conflit avec Taïwan, ben ils ont le recensement de toutes les fibres optiques qui relient Taïwan vers n'importe où en Asie. Ça va être les premiers lieux qu'il y aura coupure de fibres. Donc, dans toute invasion, tu coupes les communications, tu les brouilles, puis après ça, tu avances avec ta gang. Ça empêche l'ennemi de se faire de mettre à l'exécution des plans et communiquer le déplacement des troupes. Un exemple qui est arrivé près de nous, ben, c'est Haïti en 1994, quand les Marines américains ont pris le contrôle de l'île parce que ça marchait plus. Ben, il avait investi le réseau téléphonique et qu'il avait justement shoté down le CO. Fait que c'est pas d'hier que ça se passe comme ça. Mais là, puisque une fibre optique peut reposer des fois à des milliers de pieds sous la mer, ce ne sont que des robots qui peuvent aller réparer ça à cette profondeur. Donc, ça devient un peu plus onéreux de commencer à, si la force en opposition, c'est faisable d'aller et couper ça facilement, mais le réparer, c'est là que je parle que c'est onéreux, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. Fait que c'est dans cette sans faire de jeu de mots, c'est dans cette optique-là qu'il faut garder la considération que malgré que ça nous semble loin des yeux, loin du cœur, est-ce qu'il y a un moyen alternatif de rejoindre l'autre continent si les fibres intercontinentales sont coupées? Ici, je parle de fibres intercontinentales parce que quand on est en Europe, en Asie, ben là, ça sert à lier les différentes îles, les continents ensemble parce qu'ils sont beaucoup plus près. Mais nous, ici, à l'Amérique du Nord vers le reste du monde, ben c'est comme ça que ça, 10% de mémoire du trafic Internet qui passe par là, c'est pas 95. Facile, alors ouais. Sinon, le backup, c'est satellite. Ben, les satellites à basse orbite, comme Starlink récemment, nous amènent une alternative intéressante, peu coûteuse. Alors qu'avant ça, ben, c'était des gros systèmes commerciaux, comme avec Huge ou Inmarsat, tu n'avais pas une belle bande passante, mais ça coûtait les yeux de la tête. Fait que, soyez avisés. Il peut y avoir donc des dérangements massifs Internet dans un avenir assez rapproché qui pourraient être liés avec ces opérations de coupure dans les profondeurs.
Perfect. Puis là, tu parlais justement qu'il y a de l'offensif là-dessus. Fait que là, les US investissent 1 million en sécurité offensive.
Ça ressemble
à quoi? Un milliard.
Milliard. Think big. Come on. Non, sérieux. Quand money is no object, là, let's go, on rouvre la vanne. 1 milliard à investir en cyberopération offensive. Le NSA va dire, ils sont fous comme la merde. Ils vont être en mesure d'aller s'acheter des ressources matérielles, donc aller davantage se positionner, faire la meilleure recherche, aller chercher de meilleurs cerveaux, mieux les payer surtout, alors que le reste des amis Five Eyes, ben tout le monde va gratter le fond de tiroir pour être en mesure d'aller chercher quelque chose, faire quelque chose d'équivalent, mais c'est impossible. Mais c'est par contre, la nouvelle, elle est bonne en soi parce que je rappelle aux gens, quand même l'armée chinoise, le ministère de la Sécurité intérieure, dispose pour des cyberopérations d'au-delà de 125 000 soldats dédiés à des tâches de cyberopérations. La Russie, c'est toujours autour de 5-6 000, si on compte pas les cyberbandits qu'ils se rallient à la cause russe.
Puis là, au Canada, on est-tu rendu à 5, 12, 15?
On approche de 60 ans.
60,
c'est pas spécifique. C'est encore pathétique. Je veux dire, on veut suivre l'effort, on veut contribuer, c'est-à-dire à cet effort-là. Tous ceux et celles qui sont impliqués, par contre, dans le cybercommandement, c'est des top-notch. Ça, c'est indéniable. Ils maîtrisent très bien le travail. Cependant, ils sont trop peu pour qu'est-ce qui est à effectuer.
Mais non, ça n'a pas de sens. Puis, est-ce qu'on a une idée de combien on investit juste en sécurité, en cyber, je veux dire, au pays? Je pense même pas que c'est public, oui.
Ben, ça l'est indirectement parce que tu apprends le risque de personnes d'impliquer. Autrement dit, le cybercommandement a vu le jour parce qu'il y avait un besoin qui a été identifié d'avoir une structure parallèle avec le reste parce que tout ce qui est de service cyber dessert tous les autres éléments. Autrement dit, l'armée, la terre, l'aviation. Fait que c'est pour ça qu'ils ont, un peu comme les Américains, ils ont calqué sur ce modèle-là de faire un commandement cyber propre à ce de cinquième domaine de bataille. Parce qu'après, tu as air, terre, mer, après ça, tu as l'espace, puis après ça, tu as le cyber. Fait que c'est pour ça qu'on verra dans un avenir approché que ça devrait augmenter et par budget et par ressources humaines qui vont être affectées si le recrutement va bien, évidemment. Mais pour que le recrutement aille bien, faut qu'il y ait un élément de mission clair. Est-ce que le Canada peut participer à des missions offensives? Selon les lois internationales, ce n'est pas un civil qui peut mener une action politique envers un autre pays, mais bien un militaire. Et c'est pour ça que malgré qu'il y a des civils, souvent c'est des anciens employés de la défense qui ont pris leur retraite puis sont revenus le lendemain bien civil et qui travaillent pour les besoins de défense, mais ils ne peuvent pas mener des cyber opérations. Fait que tout ça va dans même affaire aux États-Unis. Je veux dire, la loi est écrite différemment, mais essentiellement, là, c'est faut que ce soit des militaires qui soient derrière l'action offensive vers l'ennemi. Fait que ce que je disais tantôt avec les chiffres, il manquait la Corée du Nord puis l'Iran. Eux autres aussi sont très, très actifs. Et il y a encore des évaluations de menaces qui sont sorties, considérant que l'Iran peut mener des cyber opérations parce qu'on a des intérêts, nous, pro-israéliens, fait qu'ils nous identifient comme étant des amis d'Israël. Donc, on n'est pas fin envers l'Iran, mais quoi que le Canada jouit toujours de cette neutralité en quelque part, mais par osmose, par proximité du gouvernement de Netanyahou, ben c'est là qu'ils vont nous inclure dans les cyber opérations, tout comme la Corée du Nord, eux autres qui frappent n'importe où, surtout avec les crypto-monnaies. Fait que c'est pas fini, ça, là, ça roule 24/7. Et comme on va parler d'une autre nouvelle tantôt qui a rapport à ça aussi, faut pas baisser les bras. Il faut vraiment garder la tête haute puis mettre tous les efforts nécessaires pour protéger ça, mais surtout connaître nos opposants, connaître les tactiques techniques et procédures et se préparer à ce que ça va se produire. C'est pas une question de si, mais bien de quand.
Ou depuis quand. Ouais.
Yep,
parce qu'on l'a vu avec les US, là. 5 ans d'être caché, la Chine cachée dans leur système, là. C'est hard.
Ah, il y en avait-tu une? C'est dans la liste des nouvelles. La garde nationale américaine, ils ont fait faire par AT&T le réseau GuardNet d'une couple d'années. Je pense qu'il y a une affaire d'une couple de millions. Pardon. Et là, Salt Typhoon, et un groupe d'opérations chinoises, de cyber-opérations chinoises, ben, était déjà dans AT&T. Et là, ils ont été compromettre le réseau GuardNet affectant la garde nationale américaine. Pas pire, ça.
Ouch. Ouais. Ben, comme tu dis, 100 000 personnes, tu peux en faire du stock.
Oh yeah.
Ouais. Ben, c'est pas si pire. Notre ratio est pas trop mal. 60 versus 120 000.
Non, mais pire que ça, Pat, sur le sujet. On a appris cette semaine que le Pentagone, donc le ministère de la Défense américain, utilise Microsoft, mais qui soutient les opérations de ces PC-là, d'après toi?
Bonne question. Ouais.
Tic-tac. Jacques, t'as-tu une idée? Ou
je vous dirais Accenture, mais je sais pas.
Voyons, là, les gars, vous me décevez, là.
IBM?
Soyez plus créatifs.
CG.
Ils ont regardé ce qui se passait, ils disaient, il y a GS, là, regarde, ils ont fait sa clique, c'est bon, on va y prendre.
Non, c'est dans l'affaire, là, t'as raison, là, tu sais, là. Mais non, au contraire, Microsoft, eux autres, ils ont engagé, justement, en impartition des éléments extérieurs. Oh. Et là, ils ont créé un programme que ils vont
c'est
chercher
la qui répondent. Ouais.
Ils vont chercher les ressources où?
China Bay. Ouais, j'ai vu ça hier, justement, OK.
Oh, my gosh.
Ouais.
Non, c'est pathétique, là. Regarde, j'ai oublié de mettre l'article, là. Je vais la remettre dans le show notes. Mais ce que ça démontre là-dedans, c'est qu'encore une fois, t'es une organisation qui va contractualiser une compagnie XYZ. Et là, cette compagnie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'en va en sous-contrat vers Joe Blow Informatique à l'au bout du monde pour sauver 5$. Et là, ça donne une brèche de sécurité. Fait que, à quoi ça sert de se casser la tête, de dire comment qu'on va rentrer dans le Pentagone? Non?
Mais toi, c'est t'as même pas besoin de faux employés, ils t'engagent direct.
Hey! Toutes dépenses payées.
Parce que là, il y en a beaucoup là, de faux employés avec la Corée du Nord.
Oui.
Ouais. Je sais pas si ça a passé.
Oui.
Là, ils payent des monsieur, madame, tout le monde aux US, leur donnent 50, 200 000, des affaires de genre. pour qu'ils hébergent des laptops dans leur appartement. Les laptops sont sous VPN. Ils se font du deepfake, whatever, pour se faire engager, ou ils se font engager dans des firmes qui checkent rien. Parce puis ils passent par ces laptops-là pour être des personnes US.
Ouais. Ça. Exactement.
Puis après ça, ces laptops-là, c'est une personne qui en contrôle genre 10. Ils travaillent plus ou moins. Là. Puis ils ont accès à toutes les entreprises. Puis même s'ils travaillent plus ou moins, ils s'en foutent de travailler. Leur but, c'est quand ils ont l'accès direct à l'entreprise, c'est débuter l'exfiltration right away. Là. Ouais, ouais.
Fait que t'engages les cyber méchants. C'est bon, hein? On est rendu là.
Ouais, ouais, même pas besoin de faire ça à ce temps-là, t'es engagé.
Ben, en même temps, c'est dans certains forums populaires, ce qui est rapporté veut dire ça sert à rien d'aller commencer à hacker. Tu vas te loguer avec les comptes compromis qui sont retrouvés sur le dark web.
Ben oui, ça aussi. Puis juste à bout de forcer les mots de passe des fois, sur des systèmes que tu sais qui sont pas monitorés, ça finit là.
Ah oui, la game est rendue difficile pour eux autres.
Ben oui. On en parlait il y a plusieurs années, mais...
Les identifiants coûtent même pas cher. Là.
Ben non, en plus, là, oui, puis tu peux en avoir des testés live qui fonctionnaient cette semaine.
Ouais.
Mais tu sais, on est beaucoup à avoir fait du pentest Québec-Canada à temps plein, puis il y a quelques années qu'on était tous là-dedans, la norme, c'était de compromettre complètement une entreprise en 3 heures. Puis 90% du temps, c'était basé sur des passwords spray, ou de, comme tu viens de dire, des passwords déjà compromis sur le web.
Ah. Ouais, ouais.
Ben oui, Revenu Canada, mystères, là. Hein?
Revenu Canada s'est fait avoir comme ça.
Ben oui.
Avant que change son scheme d'authentification. 800 000 comptes qui avaient été compromis de mémoire. Là.
Qui ça? Ah, oui.
Revenu Canada.
Revenu Canada.
Oui, password spring.
Tu prends un top 5, mettons qui kill ton compte après 5, tu spams 4 partout. Sur le nombre d'employés, tu réussis à rentrer. Puis au gouvernement, dès que tu as un peu d'insight, tu sais les default passwords anyway. Tu sais, Québec, c'est Soleil 01. Fait que tu rentres là-dedans, c'est facile. Il y a quelqu'un qui le changera pas. Si seulement c'était une blague. C'était quoi les autres? Après ça, ben, tu as tous les concepts de été 2025. Puis l'hiver. Fait que tu es switch aux saisons. Mais c'est sûr que tu prends quelqu'un. C'est sûr, sûr, sûr.
Ouais.
Yes. Jacques, je pense que ta phrase favorite, une petite nouvelle reliée à ça, là, Fortinet qui arrête plus de faire la feature spéciale de dire on vous met une backdoor avant que vous authentifiez. Ouais.
Le RCE là, qui était.
Oui, un autre. Mais c'est parce que c'est pas le premier. Là.
Il demande même pas une authentification qui était patchée au début juillet, je pense. Mais là, ils ont trouvé des exploits qui existent, puis il y a du monde qui en ont profité. Ils sont rentrés parce que les gens tardent à déployer leur mise à jour, mais...
Ouais, toutes les entreprises...
On n'a pas demandé sur la French Connection de faire des mises à jour.
Non, on parle pas de ça.
Non.
Mais, ouais, je pense que ça va être ça, le T-shirt, cette année.
Ouais.
Oui, c'est clair. Faut en faire quelque chose avec ça, mais non, c'est fou, puis... Le concept de patcher les systèmes aussi, c'est pas. C'est pas vraiment de la sécurité. C'est juste de trouver un processus pour que ça se fasse automatique. Là, c'est pas. C'est
quand même... ça, je comprends pas. Je sais exactement là, je m'en allais, Pat. Je comprends pas pourquoi une compagnie comme Fortinet, que honnêtement, j'ai plus confiance, là, ont pas un mécanisme de mise à jour automatique. Je veux dire, moi, chez nous, puis une couple de mes petits clients, on a du grâce à Steve, Ubiquiti, Unifi.
Ouais, puis c'est pas en plus. Généralement, ces systèmes-là, c'est des boîtes. Là. Fait qu'elles soient mises à jour ou autres, c'est rare que c'est un API qui brise d'autres applications. Mm. Ça devrait au moins auto-updater ces patchs-là. Oui, c'est sûr que si ça brise quelque chose, dites-les, mais à part ça, t'as raison.
Non, sort une patch, puis là, il faut qu'ils attendent. Fortinet, ils sortent un bulletin, ils se mettent à jour vos affaires, puis là, les gens n'écoutent pas, puis ils se mettent pas à jour, puis ils se font.
Parce que, tu sais, dès qu'il y a un bulletin qui sort, c'est du BIF, bin diff qu'ils font. Là. Ils pognent le binaire, ils font la différence du binaire avant la patch, puis après, puis ils trouvent la vulnérabilité, puis game over. Puis ça a été prouvé, ça fait déjà plusieurs années, là, dans les débuts du AI, puis de l'automatisation et tout, là, que c'est 24 heures, puis t'as un exploit là, pour les trucs pas trop, trop compliqués. Là.
Mm.
C'est pas long. Là. Mais même en entreprise, là, le concept de patcher, puis des CVE, puis de gérer tout ça, c'est comme limite dans le sens que c'est simple à faire. Puis là, mais là, tu traverses à la grande entreprise ou autre avec. Quand ton réseau devient assez gros, là, t'en as des millions de vulnérabilités. Là. Fait que c'est le problème, il est là. Mais là, quand t'en as des millions, tu peux le réduire sur juste qu'est-ce qui se fait pirater ou est-ce que l'exploit existe puis tu fais pas le reste. Parce qu'au final, c'est comme la game du 0D. Si quelqu'un trouve un 0D puis personne connaît, avant qu'il soit zéro, là, personne connaît l'exploit, c'est la Chine qui vont trouver des trucs avant que le monde le détecte, là, tu peux pas vraiment te défendre à propos de ça. C'est comme bidon un peu patché en même temps. Pas qu'il faut pas le faire, hein, mais je veux dire, ça donne pas grand-chose.
T'as raison de dire qu'il y a énormément de vulnérabilités qui n'ont pas nécessairement d'exploits.
Ben non, c'est ça.
Quand tu promets ça, non, on focus sur ceux qui ont des exploits. On parle ça en premier, clairement.
Yep. Fait que ça reste un bon sujet du jour. Sinon, de ton côté, Jacques, NoName57, là, le groupe d'activistes qui a recommencé à faire des petits dénis de service. Là. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, ils sont fait démanteler, le groupe activiste NoName057.
Démanteler? Ah, mais il me semble que c'est récent qu'ils en faisaient, non?
Hein?
Ils n'avaient pas fait des dénis, genre, il y a 2-3 semaines. Ils se sont fait pogner juste après, ouais.
Ils se sont fait des lives pendant qu'ils faisaient une opération cette semaine, là.
Ouh, OK. Bon, j'ai pas vu ça. Go for it, mon genre.
Le collectif là, qui est pro-russe, qui est actif depuis mars 2022, qui, justement, il y a 2 ans, 2023, s'était attaqué au Canada. Steve, moi-même, peut-être même toi, Pat, on était dans les médias là, énormément quand c'est arrivé, parce que, oh, mon Dieu, c'était tout nouveau. Là, on faisait des attaques de la Russie sur nos serveurs canadiens. C'était comme, oh my God, là, tu sais. C'était comme jamais vu. Fait que la panique s'est installée. Puis ça a duré pendant 2-3 semaines, je veux dire. Je les suivais, comme Steve, je les suivais sur un Telegram. Puis là, il se pétait les bretelles qui, tu sais, il disait qu'il détruisait ou il mettait down des serveurs. Hein, des attaques de déni de service. Ça durait une couple de minutes, une couple d'heures, puis c'était fini, là. Mais bref. Il spécialisait dans les attaques des DOS. Ça, c'est ça. Contre l'Ukraine puis ses alliés. Fait que là, évidemment, le Canada faisait partie de ça. On envoie de l'aide à l'Ukraine. Notamment des institutions gouvernementales, des banques, des services publics, des événements tels que les sommets de l'OTAN, des choses comme ça. Puis ils utilisaient là, justement Telegram, puis un logiciel qui s'appelle DDoja pour faire les attaques de déni de service. Fait que là, puis les gens sur Telegram, on voyait il y avait du monde partout dans le monde qui supportait la Russie, qui se portait volontaire là, pour prendre leur machine pour faire des attaques de déni de service. Fait qu'ils disaient, OK, demain on attaque telle place, là, puis ça partait. Mais là, du 14 au 17 juillet, donc dans les derniers jours, il y a sous la coordination d'Europol et Eurojust, il y a 14 pays qui ont participé à l'opération, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, Pologne, Suède, les États-Unis, puis ont mis hors ligne plus de 100 serveurs, donc ils ont démantelé une grosse partie de l'infrastructure, des arrestations, dont un en France, un en Espagne, puis je me souviens, là, un an à peu près, il y avait arrêté 2-3 personnes en Espagne, qui était relié à ce groupe-là, et là, le groupe s'est tourné vers l'Espagne pour une couple de semaines. Il attaquait des sites du gouvernement, des choses comme ça. Il y a eu des perquisitions dans plusieurs pays, des mandats d'arrêt, fait que on a commencé à voir ça. Maintenant, on dit que, il appelle ça l'opération Eastwood, ça constitue un coup dur symbolique. Hein, parce que ces gens-là sont battus en Russie, là. Sont battus en Russie. Fait qu'on sait que ça prendra probablement pas de temps qu'ils vont repartir, là. T'sais, c'est quand même maintenant, on s'était tout énervé parce que il avait mis à terre, Conti, hein. Oh my God. Ils sont allés ailleurs. Ils sont revenus. T'sais, l'Orbit, pareil, ils sont fait démolir. Ils sont revenus. Fait que c'est pas la fin de ces groupes-là. On va peut-être nuire à leurs opérations pour un petit bout de temps, mais ils vont revenir. C'est pas fini.
Qu'est-ce que ça veut dire, Steve?
À ta nouvelle, Jacques, j'ajoute les pays qui ont contribué au soutien, qui est la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Estonie, la Lettonie, la Roumanie et l'Ukraine. Puis ce que je montre à l'écran présentement, bien, c'est le canal de NoName 057 qui, suite après l'opération, le dévoilement de cette nouvelle-là, bien, eux autres y affirmaient, on continue, croyez pas ce que les agences de l'Ouest vous notent. Puis ils ont continué à faire des cyberattaques là, contre des éléments en Allemagne.
Voilà. C'est ça.
Ben, tu sais, ces éléments-là, on le sait, c'est des hydres. Puis on coupe une tête, ils en repoussent trois. Puis dans ce cas ici, est-ce qu'ils ont vraiment repris les opérations? Parce que, tu sais, ils sont forts dans faire à croire qu'ils sont pas à terre.
Ben oui, parce que 12 personnes se sont pas fait gagner sur 200. That's it.
Oui.
J'ai de la misère à croire, ça va disparaître. Ça ne disparaîtra pas. Ça va continuer.
Ben non, c'est sûr. Et c'est comme la majorité des groupes, là, ils changent de nom puis ils continuent.
Ouais, c'est ça, je veux dire. C'est un groupe qui s'appelle No Names 057. Ben, si tu te donnes un nom comme ça, tu as effectivement un name. Fait, je sais pas. Là, c'est ce qu'on te dit, Laurent.
On va faire le même. Ouais, c'est pas mal ça. Avez-vous d'autres nouvelles vous vouliez parler? Si je suis en une couple d'autres.
Ben moi, je vais faire une je parle toujours vinaigré, mais des fois, j'aime ça dire des bonnes choses, de donner lever le chapeau à quelqu'un. Quand j'étais à ETSEC, il y a une firme basée à Saint-Jérôme, Riappel Consultant, qui m'a téléphoné, puis on a un petit projet ensemble. Et j'ai eu une discussion cette semaine avec le propriétaire Simon-Pierre Riappel, qui ça fait longtemps que ça roule, puis ils ont bien des clients dans les Laurentides. Puis me montrer, j'aime ça parce que je trouvais ça génial ce qu'ils ont fait. Ils ont comme bien des MSP, bien des firmes de services TI. Ils ont plusieurs systèmes. Ils ont ConnectWise, ils ont DataRMM, ils ont toutes sortes d'affaires. Et ils ont bâti, ils ont des développeurs, ils ont 3 développeurs en équipe, puis ils ont bâti un portail client qui va chercher et faire une agrégation de toutes ces informations-là pour le client. C'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Fait que chapeau la gang, c'est vraiment beau ce que vous avez fait. Une belle interface, très sécuritaire. Et c'est ça, je trouve ça génial quand je vois des choses comme ça. Fait que j'aime ça de mentionner.
Nice.
Cool, ça,
nice.
C'est bon.
Ben oui, tout à fait.
Pat, un message communautaire avant de se laisser.
Ben oui, vas-y.
Il y a eu une petite tempête sur WeTransfer qui avait annoncé qu'il était pour faire de l'apprentissage avec son IA de toute information qui était confiée à WeTransfer, qui est un service en ligne pour être à mesure de faire des échanges de fichiers volumineux. Mais le 15 dernier, donc mardi, l'annonce, c'est quoi? J'étais lundi. Mardi, tout de suite, il y a un message qui dit non, faites-vous-en pas, on ne fait pas ça avec vos données, puis ils ont clarifié cette position-là. Cependant, c'est un point important que pourquoi il faut transmettre nos informations en clair vers des plateformes externes de cette nature-là. Même affaire avec Dropbox, mettons. Quand est-ce que vous allez apprendre que Dropbox a été piraté? Vous allez toujours le savoir après, dans l'ordre que vos données vont avoir été compromises. Ça revient, encore une fois, à tous et chacun de faire une évaluation du risque. Et si, dans le contexte que vous voulez échanger, vous ne voulez pas que la donnée soit dilapidée aux 80, ben peut-être la chiffrer avant de l'envoyer, ça serait une bonne idée. Le chiffrement, il y a un mécanisme qui est éprouvé.
Oui, vous utilisez des plateformes. Ouais. Plug, shameless plug, une compagnie de Montréal, ça fait plus de 12 ans qu'ils font ça, puis il y a eu tellement de choses, hein, WeTransfer, puis il y en a eu plein, là, on en a parlé dans les dernières années, mais il y a une compagnie qui est peu connue à Montréal qui s'appelle ConvoFlow, ça fait plus de 12 ans qu'ils font ça, ils font exactement
c'était,
ça.
C'était Tag My Doc avant, right?
C'était Tag My Doc qui a changé le nom à ConvoFlow, puis c'est génial, je l'utilise, puis
oui, ça marche super bien, moi aussi.
La sécurité, ils prennent ça très au sérieux. Là, ils viennent l'intégrer, c'est cool, il faut que je fasse ça. Ils viennent l'intégrer la single sign-on avec Enter ID. Donc, toutes les policies de conditional access vont s'appliquer. Fait que, on se regarde ça. Si vous ne connaissez pas ça, c'est malheureux. On connaît mal des fois nos entreprises locales et québécoises, mais ConvoFlow, vraiment cool, regardez ça.
Oui, puis il y en a une couple d'autres, je pense, qui sont à la vitrine du Hackfest là, de ce startup. Fait que, ouais, cool. Regardez vos locaux. Puis sinon, d'autres projets d'été, il reste un mois et quelques, à peu près.
Ouais, non.
De chaud, des trucs le fun de votre part.
Ouais, mais non, il fait chaud, en Titi, mais
tout à fait.
Occupé, bien des évaluations de posture de cybersécurité. Je suis bien content, ça roule. Toujours de quoi?
Yes, Steve.
Je m'adonne à m'éclipser le plus souvent possible, couper de toute communication dans les profondeurs, les abysses de nos lacs et rivières. Je m'en détache le plus possible parce que l'automne va être très chargé. Je l'anticipe déjà très occupé.
Ouais.
C'est de cette façon-là qu'on va se reposer un petit peu plus. On va aller explorer les épaves, on va aller pêcher de la pétanque. On va s'amuser.
Cool. Perfect. Ah, je suis content aussi, Pat, très très content, je l'avais mis sur LinkedIn, mais que mon talk a été accepté là, pour la
Ah oui, c'est vrai. Ça va être super le fun.
Je suis content.
Tu vas avoir un t-shirt plus ton talk, ça va être malade.
Hey, carrément.
Qu'est-ce que tu dis?
Un stage pour faire la promotion de son t-shirt.
Ah oui, en plus, c'est comme tout marche.
Ouais, hey, je vais te danser à café, moi.
Ben oui, il y en a plein, puis on essaie de retrouver un autre modèle là, pour qu'il soit un peu... différente.
Non, mais t'as regardé avec le
ah, avec ça, oui, ça aussi, on s'en va vers là. Ça va être un peu des éditions limitées, évidemment, là, mais oui.
Non, mais regarde, c'est un pas pire concept, là, le t-shirt, la tasse, tout ça pour cette année-là. Édition 2025, c'est l'édition genre.
Ouais.
On fait tirer des bouteilles de vinaigre.
La jaune connection, oui, ça serait bon. Ça, on va mettre ça.
On va faire du vinaigre hackfest.
On va mettre plein de bouteilles sur le stage. Ça va être malade.
Merci, moi.
Si vous avez d'autres idées, gênez-vous pas ce Discord. Comment?
Je viens de dire 215, ça veut dire qu'on approche le 300, là, ça sent bien.
215, ben oui. Sûrement cool. Début d'année, là, on devrait approcher ça. Parce qu'on va avoir une couple de spéciales qui s'en viennent aussi, je crois. Là, fait que, on a quelques partenaires qui veulent des épisodes aussi. Là, fait que des invités spéciaux aussi. Je pense qu'on parlait récemment, là, on attend des oui puis des non. Fait que ça s'en vient.
Et alors, si j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais de ton été, par exemple?
De la piscine. Non, à part ça, j'ai commencé. Il faut recommencer à s'entraîner. Fait que. Ouais, faut se forcer un peu. non, ce qui est le fun, j'étais à côté d'une mini butte montagne de ski. Fait que je la monte à pied 3-4 fois semaine. Là.
That's the spirit.
Nice. La dernière fois que je l'ai faite, l'humidité était à 80%. Même pas essoufflé, j'étais déjà en eau. C'était un peu dégueulasse, mais c'est ça. Fait qu'on réessaye ça. Je vais essayer de m'en remettre à la course aussi. Là. Je faisais ça avant. Puis j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Puis c'est pas facile de recommencer. Attends, disons le même.
C'est plus la randonnée là, cette année. Les semaines, les coups ont peur de faire des randonnées. Mais comme je l'ai mentionné sur LinkedIn, même croiser Éric Girard, notre ministre.
Oui, c'est vrai, c'est drôle ça.
Mais après fin de semaine, on essaie de sortir. On a des beaux sentiers ici en Estrie, fait qu'on va faire des
En tout cas, ça te remet à ta place. C'est plus ou moins 20-25 minutes de monter à la montagne. Tu veux mourir la moitié à peu près. Puis tu te fais dépasser ou tu vois une madame enceinte qui redescend ou quelqu'un qui court puis qui le fait trois fois avant le temps que tu le fais une fois. Fait que je suis comme ouais. Je suis pas rendu genre.
On veut refaire, un qu'on avait fait d'une couple d'années, qu'on veut le refaire dans une fin de semaine, c'est aller au Vermont, aller faire le Mont Mansfield. Belle place.
Oui, j'ai jamais été là. Ouais, c'est pas pire.
Monter le Mont Mansfield, là, ça c'est vraiment cool.
On ira ensemble, tu sais.
OK.
Ben oui.
On se fait un podcast from the US side.
Mais c'est le top de la montagne.
Pas le B-side, le US side.
Ouais. Je parlais avec une groupe de personnes là, pour faire.
En montant, on fera le. On va se parler en montant.
Mais c'est un bon concept, par exemple, parce que, tu sais, l'ancienne job, une des anciennes jobs, il avait fait un concept que tu fais un podcast, mais en mangeant un piment extrêmement fort. Je pense que c'était du Ghost Pepper. C'est un podcast de 5 minutes, c'est pas une heure. Là. Peut-être qu'on pourrait faire ça, mais au lieu de ça, en montant à montagne, je veux dire... Tu veux pas mourir du piquant, mais c'est le même résultat au final.
C'est
ça très bon, très bon. Fait que, ben merci, monsieur. C'était un petit épisode d'été. Fait que, on se revoit bientôt. Puis ouais, on planifiera ce 300-là pour qu'il soit live devant tout le monde. Puis évidemment, il va y avoir un live Whitefest, là, mais.
Ouais.
Faut faire un petit hype là, pour avoir une bonne salle. Là. Ouais, c'était fun, ça. Yes. Right. Profitez de l'été, tout le monde. Ça se voit dans une ou deux semaines. Bye.
Yes. Ciao, ciao. The French Connection.